Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre moment de partage, pour ce moment qui est le vôtre sur Europe 1, jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs. Chers amis, c'est votre libre antenne. Alors, bien évidemment, vous connaissez le principe, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, et puis 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Vous avez été nombreux hier soir à nous écrire. D'ailleurs, je dois juste parler du SMS de Rémi, qui nous a envoyé un autre SMS que nous avons reçu malheureusement un peu tard pour le passer à l'antenne. Donc, toutes mes excuses à vous, Rémi, et sachez que nous avons transmis à la personne que vous vouliez toucher vos SMS, en tout cas votre SMS. Vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vos messages à Natacha et à Florian sur notre groupe de parole Facebook, Sabine Marin, Olivier Delacroix. Voilà, vous pouvez avec eux préparer votre intervention à l'antenne si toutefois vous en avez besoin. Autrement, comme cet après-midi, je m'entretenais avec Marlène qui me parlait d'une histoire d'héritage et elle hésitait profondément avant de parler et de témoigner. Je pense que nous aurons la chance de l'entendre dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai qu'ici, nous pourrions aussi aborder ces histoires de succession, d'héritage, qui souvent posent des problèmes dans les familles. Et puis aussi, une jeune fille, une jeune femme de 32 ans, Sophie, qui nous parlait cet après-midi aussi du non. Quand une femme ou une jeune fille dit non et que l'homme qui est en face d'elle ne comprend pas cette notion du non. On aura l'occasion aussi d'en parler sur cette antenne, dans cette libre antenne. Mais si d'ores et déjà, vous aussi, vous avez eu ce type d'expérience, eh bien, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver, 39-21. Vous parlerez directement à Florian avant que nous puissions échanger ensemble, chers amis. Voilà, je vous rappelle le principe de cette libre antenne. Vous êtes libre de nous appeler pour ce que vous voulez raconter. Bien évidemment, dans une relation de confiance, une confiance mutuelle. Alors, c'est à vous maintenant, cette libre antenne du mercredi. C'est parti.
La libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Sophie au 39-21. Bonsoir, Sophie.
Oui, bonsoir, Olivier.
Comment allez-vous, Sophie ?
Ça va, merci. Et vous ?
Ça va. Écoutez, moi, je suis toujours très content d'arriver à cette heure-là et de vous retrouver toutes et tous. Donc, je me sens bien à ma place, en tout cas. Merci à vous, merci à vous. Sophie, d'où nous appelez-vous ? Vous pouvez me le dire ou vous préférez ?
De Paris.
D'accord. Oui. Quel âge avez-vous ?
53 ans.
D'accord. Alors, racontez-moi tout.
Alors, en fait, j'interviens aujourd'hui. Enfin, ce qui m'a donné envie d'intervenir, c'est hier soir, la diffusion du téléfilm sur M6, je ne me souviens plus du titre du téléfilm, mais qui traitait de l'arrivée d'un enfant trisomique au sein d'un couple et la difficulté du papa d'accepter ce handicap.
Oui, c'était sur M6, je crois.
C'était sur M6,
avec
oui.
un débat
avec
ensuite.
Harry Habitant dans le rôle du père de la petite fille.
Il y avait un débat, je crois, très intéressant après, présenté par Flavie Flamand.
Tout à fait, c'est ça. Mm-hmm. Oui, tout à
fait. J'ai reçu de nombreux messages me disant que c'était très bien et que le débat était vraiment très engagé. Et que c'était un véritable défi que Flavie et ses collaborateurs ont relevé hier soir. Qu'avez-vous pensé du film alors et aussi du débat ?
Alors le film, j'appelle ce soir parce que j'ai été particulièrement émue et touchée par ce film.
Oui.
Parce qu'il traite de l'arrivée d'un enfant trisomique, de tout ce que ça peut provoquer dans la famille. Et j'avoue ne pas avoir suivi le débat jusqu'au bout parce que...
Il se faisait tard,
en fait,
peut-être.
Non, j'aurais pu... Non, c'est juste que bah, ça m'a fait revenir beaucoup d'oppression, de chagrin, enfin d'impressions qui sont revenues à la surface.
Oui.
Parce que moi, j'ai grandi, en fait, avec un petit frère trisomique. Donc, dans le téléfilm d'hier, la problématique des frères et sœurs ne se posait pas puisque c'était le premier enfant d'un couple et on était surtout axé sur la réaction des parents et notamment du père. Et moi, ça m'a donné envie de me témoigner de mon expérience et surtout de l'expérience de grandir voilà, dans l'ombre d'un enfant qui d'un seul coup vient capter toute l'attention et le regard de tout le monde. Moi, j'avais 6 ans quand il est né. J'avais un frère, ils sont toujours là. Un frère aîné de 3 ans mon aîné, avec qui je m'entendais pas du tout. Enfin, on s'est toujours battu, disputé. Et ce petit frère est arrivé. Sur le moment, j'étais ravie d'avoir un petit frère,
oui.
Surtout qu'il m'a apporté énormément d'affection, beaucoup plus que mon frère aîné. Que les trisomiques sont des enfants très attachants, très, très pleins d'amour et d'affection. Ma mère disait que c'était des surdoués du cœur, et c'est vrai que c'est vraiment... ils sont très, très, très attachants, donc je me suis très attachée à ce petit frère, j'ai joué à la petite maman. J'ai été aussi pendant un moment la grande sœur qui traduisait le langage parce que les trisomiques ont un petit peu de mal quelquefois à s'exprimer. Donc pendant longtemps, j'étais la traductrice de mon petit frère. J'étais la seule à comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai adoré mon petit frère et je ne me suis pas rendu compte, tout en grandissant à ses côtés, le mal que ça a pu faire de grandir... D'un frère qui du jour au lendemain capte l'attention des parents, de tout le monde et qui petit à petit voulait vous prendre votre place avec votre consentement parce que je l'ai laissé prendre ma place parce que il m'a apporté tellement d'affection que et donc j'avoue après, enfin je m'en suis rendu compte des années plus tard qu'en fait, les choses n'étaient pas si bien passées que ça, même si mon petit frère, lui, est autonome, enfin autonome dans la mesure du possible, mais mes parents avaient des compliments. C'est vrai que mes parents ont tout fait pour qu'il soit adaptable. On est sorti avec lui très jeune au restaurant, on l'emmenait en vacances pour qu'il soit sociabilisé au maximum. Donc mes parents ont eu beaucoup de compliments, ce qui leur prend de fierté. Et puis malheureusement, à l'âge adulte, je me suis rendu compte qu'en fait, l'arrivée d'un enfant différent, que ce soit la trisomie 21, un autre handicap ou une maladie ou un accident, enfin dans la mesure où dans une fratrie, il y en a un qui devient la préoccupation essentielle des parents, du reste de la famille, les autres frères et sœurs sont un petit peu oubliés. Enfin, je dis pas que... continuer à s'occuper de nous, mais bon, on ne peut pas vraiment se plaindre, parce que bon, le petit frère handicapé, c'est plus grave ce qui lui arrive. Quand il fait un progrès, tout le monde est en extase, c'est formidable. Et puis nous, on sent que les parents sont moins enthousiastes. C'est imperceptible, c'est sournois, parce qu'on s'en rend pas compte. Puis bon, on n'est qu'un enfant, et c'est seulement très tard, à plus de 30 ans, lorsque j'ai vu le film Le 8e jour au cinéma, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, mis en scène par Jaco van Dormael, qui devait très bien connaître ce handicap, parce que le personnage principal était très bien, enfin, c'était vraiment bien observé. Et ce film, je l'ai vu avec une amie en salle et après 15 minutes de visionnage du film, j'ai commencé à pleurer jusqu'à la fin du film. Et à la sortie de la séance, j'étais incapable d'articuler un mot. J'essayais de m'excuser auprès de l'ami avec qui j'étais. Un flot de larmes, un flot de... Ce film m'a fait pleurer pendant 2 jours et c'est là que je me suis dit que... Bah, que les choses n'étaient peut-être pas passées aussi bien qu'elles ne paraissaient.
Mais il y avait visiblement quelque chose de très profond qui n'était pas réglé, Sophie.
Ah oui, c'est évident. Là, ça a été... Oui, l'ami qui elle s'en souvient encore et c'était un flot de larmes et qui se déversait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « Ah !» Mais je n'ai pas réagi... J'ai réagi que quelques années plus tard, quand mon médecin généraliste m'a mis en garde contre les effets de les conséquences de l'obésité, qui me dit que j'avais à peine 30 ans et que il fallait que je perde du poids et que parce que je risquais des graves maladies, je trouvais que j'étais jeune pour être malade, donc j'ai accepté tout un programme pour maigrir. Et puis après, j'ai réussi à lui dire que je n'arriverais pas à me stabiliser, que j'avais besoin d'une aide. Et donc, c'est la première fois que j'arrivais à dire à un médecin que j'avais des comportements alimentaires compulsifs, où je mangeais, je me remplissais à me rendre malade. Et donc, il m'a envoyé voir une psychologue, donc, qui m'a fait beaucoup de bien.
Il y a un dilemme conséquent. Je dirais plusieurs dilemmes même conséquents dans votre histoire, parce que il y a sans doute le sentiment de culpabilité qui a pu se développer à un moment ou un autre, de quelque part en vouloir à ce petit frère, ou en tout cas en vouloir à la présence de ce petit frère qui prenait tout. Le sentiment d'abandon de la part de vos parents, qui visiblement lui accordait beaucoup trop de place, ça c'est certain, puisque les conséquences aujourd'hui sont la résultante de tout cet amour donné et sans doute toute cette énergie dépensée par vos parents pour que ce petit bonhomme et ensuite cet adolescent soient heureux. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, bien évidemment, pour ce petit bonhomme de la part de vos parents, mais il y a aussi une culpabilité sans doute permanente, vous voyez, d'injustice. Et donc, de surcroît, je pense que beaucoup de parents décuplent leur force et leur amour pour que leur enfant soit heureux et... même s'il perçoit la différence, eh bien, tout cet amour, même s'il ne le comble jamais, car il n'a rien à voir avec la perception que ce petit garçon et cet ado et cet adulte ensuite a dû avoir du monde extérieur. Hein. Il a sans doute perçu sa différence. Mais ce qui est difficile pour vous, c'est de concevoir que vos parents n'ont visiblement même pas pensé au mal qu'ils pouvaient vous faire.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai perdu ma mère. Bon, mon père, il y a plus de 25 ans, et ma mère, il y a 5 ans. Et je pensais bien vivre le deuil, parce que j'avais aussi des rapports compliqués avec ma mère, que j'avais réglé en psychothérapie. Je m'étais réconciliée avec ma mère, qui, à la fin de sa vie, malheureusement, s'est enfermée dans une profonde, et c'est complètement isolé. Mais donc j'avais le temps de faire le deuil de la personne qu'elle avait été. Et donc je pensais, bon, après son décès, bon, passer une période normale. Mais
voilà, ça a dû être tout de même très compliqué.
Mais j'ai pas compris pourquoi je me suis trouvée dans un état dépressif profond, parce que j'avais déjà perçu, j'avais été dépressive à l'adolescence, mais dépression de l'adolescence, j'en avais tous les symptômes, mais ça n'a alerté personne.
Ouais. Votre père ou votre mère, personne ne s'est alerté de ça. Hein.
Non, on met ça sur le compte de l'adolescence. Pourtant, bien des années après, j'ai compris que j'avais tous les symptômes. J'étais une petite fille vivante, j'avais des amis, je faisais des activités extrascolaires, et presque d'un trimestre à l'autre, mes résultats scolaires ont chuté, j'ai arrêté toute activité extrascolaire, je n'avais plus d'amis, je passais mon temps enfermé dans ma chambre, à regarder le plafond, à me demander de quoi j'avais envie, à me demander ce qui m'arrivait, à me demander quand est-ce que j'allais redevenir comme avant. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des comportements alimentaires aussi, à manger pour me remplir, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je ne sais pas, non, ça n'a personne. Pourtant, mes parents travaillaient dans un milieu médical.
Que faisaient-ils?
Ça n'a alerté personne. Pardon?
Que faisaient-ils dans ce milieu médical?
Ma mère était kinésithérapeute, mon père était dentiste et ma mère était kiné au sein d'une clinique où elle était très connue, où elle était là depuis l'origine de la clinique et entourée de beaucoup de médecins. Et je me disais, mais personne ne l'a alertée. Alors c'était dans les années 70, peut-être qu'on était moins sensibles à ce que pouvaient ressentir les enfants. Enfin, j'en sais rien, pourtant, François Dolto était déjà passé par là, mais bon. Maintenant, je me dis, mais comment personne ne l'a alerté sur attention à vos autres enfants? Personne, ni dans la famille au sens large, ni n'a pensé qu'on avait pu être affecté par ce petit frère qui a bouleversé la famille. Non, personne. Et ça, j'en ai voulu longtemps. Enfin, voulu, pas une personne en particulier, mais voulu un peu. Enfin, personne. Pourtant, on n'était pas une famille isolée. On avait une grande famille. On côtoyait. Voilà, mes parents n'étaient pas isolés. Et puis personne. Non, c'était peut-être pas encore suffisamment répandu. La psychologue qui m'a suivie me dit, elle, que dans le cadre d'une association, maintenant, justement, a été sensible à mon témoignage, puisqu'elle, maintenant, accompagne justement quand il y a dans une fratrie un enfant différent qui arrive. Maintenant, paraît-il que souvent les frères et sœurs sont pris en charge.
Il serait grand temps, mais je pense que ça fait quand même un moment que il y a eu une prise de conscience autour de tout ça. Mais on va continuer à en discuter si vous le voulez bien, Sophie. On marque une légère pause et puis je vous retrouve dans quelques instants. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
39-21 pour nous joindre. 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS, vos recommandations, vos questions, vos encouragements aussi. Et puis sur notre groupe Facebook de Parole Olivier Delacroix, Sabine Marin, vos mails adressés à Natacha ou à Florian, ou à moi-même si vous le désirez. Nous sommes avec Sophie qui évoque ce soir le mal causé par l'arrivée d'un petit frère trisomique et qui a visiblement provoqué, Sophie, un détournement de l'attention de vos parents à votre égard, au bénéfice de ce petit frère. Et puis vous nous disiez donc que votre maman avait perdu la tête, en tout cas avait fait une grave dépression à la mort de sa propre mère et que vous n'aviez pas pu régler, en fait, les choses avec cette mère.
Disons que j'avais eu le temps, avant qu'elle plonge dans cette dépression qui la coupe de la réalité, je m'étais réconciliée avec ma mère, parce que j'avais aussi des rapports compliqués avec ma mère, mais qui n'avaient rien à voir là avec l'arrivée de ce petit frère. Donc j'avais réglé mes problèmes et j'étais en paix, je m'étais réconciliée avec ma mère. Mais en fait, je me suis aperçue après son décès qu'il m'a plongée dans un grave état dépressif qui m'a même inquiétée, ce qui fait que je suis retournée voir la psychologue qui m'avait suivie et que j'avais cessé d'aller voir parce que tout allait bien. Je suis retournée la voir parce que là, je comprenais pas parce que j'avais fait le deuil de la personne qu'elle était avant même son décès, puisque donc je parle toujours de ma maman, qui donc à la fin on ne pouvait plus communiquer avec elle, donc je pensais avoir réglé les problèmes avec elle, donc je pensais aller vivre son départ déjà comme un soulagement, mais ça faisait 4 ans qu'elle était gravataire et sa qualité de vie n'était plus du tout enviable, donc sur le moment ça a été un soulagement, parce que bon, c'est, voilà, ça, la vie qu'elle menait n'avait plus aucun intérêt. Mais après, moi, j'ai été surprise par ma réaction et j'ai fini par comprendre, grâce au travail avec ma psychologue, que, en fait, là, la mort de ma mère et puis donc mon père bien plus tôt faisait que c'était la fin d'un espoir, d'une reconnaissance de cette souffrance, enfin, de ce malaise qu'on a eu, ce qu'on a pu ressentir,
oui,
c'est passé.
Mais...
on n'en parle jamais des
mais
fratries,
cette
de
reconnaissance...
comment c'est vécu par les frères et sœurs.
Cette reconnaissance, en fait, même si vous vous êtes réconcilié avec votre maman pour d'autres problématiques, visiblement, qui vous éloignaient, il n'y a jamais eu réparation de ce point-là, précisément.
De ce point-là, voilà. On n'en a jamais parlé. Et on a toujours plein mes parents, plein mon petit frère. C'est vrai, quand il y a un handicap, ben, on plein l'enfant, plein les parents. Et on n'en avait jamais parlé. C'était un peu un sujet tabou. Enfin, on n'en a jamais parlé. Et j'ai l'impression même que personne ne se doute de rien parce qu'on parle devant moi de cas similaires, d'enfants maintenant, qui sont enfants maintenant, mais sans faire le rapprochement que nous, on a pu vivre la même chose. Enfin, cette non-reconnaissance, on n'en parlait pas. Et là, j'ai eu une cousine il y a quelques années qui a eu un petit garçon avec une maladie orpheline. Enfin, du jour au lendemain, toute la famille s'est focalisée sur moi. Et moi, j'étais la seule à dire, mais comment va l'aîné, comment va le plus grand, comment... Parce que moi, je me suis identifiée, d'un seul coup, on ne parlait plus que... Et ma tante était capable de me parler en compatissant, enfin, mais comme si moi, je ne pouvais pas comprendre la situation, alors que nous, on l'a vécu. Enfin, c'est très étrange, j'ai l'impression que tout le monde a l'impression que tout s'est très bien passé, et enfin...
Mais dans votre échange avec Natacha, vous avez fait part d'une parole que disait souvent votre mère à propos des petits trisomiques. Elle disait qu'ils étaient des surdoués du cœur.
Tout à fait.
Comme si, finalement, vous, les frères et sœurs qui n'avaient pas cette trisomie, avaient quelque chose en moins au niveau du cœur.
Comment
est-ce que... Bah, en fait, j'aimerais savoir, moi, comment vous analysez ça lorsque, maintenant avec du recul, lorsque on parle de cette phrase-là, qu'est-ce que ça provoquait chez vous comme sentiment, comme réaction, comme gamberge même? Est-ce que à ce moment-là, vous vous disiez, et moi, alors donc si il est surdoué du cœur, moi, où est-ce que j'en suis avec mon cœur? Parce que vous avez dû entendre ça petite même.
Oui, sur le moment, je j'approuvais ce qu'elle disait parce que je voyais pas. J'ai vraiment pris conscience de la place qu'a pris mon petit frère tout au long des années où j'ai vécu à ses côtés, que tardivement, sur le moment. C'est vrai que ce sont des c'est vrai que je trouve que c'est une jolie formule, mais c'est vrai que les trisomiques sont très attachants, ils donnent énormément d'amour, d'affection, ils sont, donc moi je me suis laissée piéger parce qu'avec mon frère aîné les rapports étaient froids et distants, enfin, ou conflictuels, donc là moi j'étais ravie d'avoir un petit frère qui donnait plein d'amour comme ça, qui ouvrait ses bras et qui me disait ma sœur et qui me faisait des câlins, enfin, donc
mais le mal je pense n'en est que démultiplié. Parce que je pense que vous avez dû développer aussi une problématique de comment vous dire, d'injustice vis-à-vis de lui, parce que lui n'avait rien à voir avec ça. Or, quelque part, vous lui en avez voulu quelquefois. Et où en êtes-vous avec lui aujourd'hui? Il est toujours là, il est toujours présent.
Oui, il est toujours là. Oui. Alors, je suis passée par plusieurs phases. Alors, sur le moment, je vous dis, moi, j'adorais mon petit frère. J'étais très fusionnelle avec lui. Et en fait, j'ai pris conscience de tous les dégâts que ça avait eu bien plus tard, quand j'ai commencé à faire tout un travail avec ma psychologue. Sur le moment, non, j'ai adoré mon petit frère. Et avec le temps, je suis passée par différentes phases. À un moment où je lui en ai voulu, où ça m'est arrivé d'arriver à le faire pleurer. Enfin, alors, après, j'étais désolée de l'avoir fait pleurer parce que lui, il aurait préféré être normal. Mais...
On va continuer, Sophie, à évoquer ce rapport avec lui parce que c'est intéressant aussi de voir comment vous avez évolué, comment il a changé. On laisse passer l'information sur Europe 1 et on se retrouve après, d'accord?
D'accord.
À tout de suite, Sophie.
La libre antenne d'Europe 1.
23h04, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct, chers amis. 39-21, 50 centimes d'euros la minute pour nous joindre, et puis vos messages au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un tiret. Nous sommes avec Sophie qui évoque ce soir avec nous l'oubli, la mise de côté des frères et sœurs lorsqu'un enfant qui a une différence née dans la famille. Sophie nous raconte ses souffrances quant à l'arrivée de son petit frère et puis l'évolution de ce mal jusqu'à ce que sa maman s'en aille sans que Sophie n'ait pu, vous n'ayez pu régler les choses, Sophie. En fait, je vous demandais quelles étaient vos relations avec ce petit frère qui, bien évidemment, lui n'a pas dû percevoir quoi que ce soit par rapport à tout ça.
Ah non, non, ça c'est, ben il a pris la place qu'on lui a donnée.
Bien sûr.
Mais moi, dans tout mon travail que j'ai effectué en psychothérapie, c'est vrai que je suis passée par une phase où je lui en ai voulu énormément. Mais bon, après, tout en me disant, mais il n'y est pour rien, hein, il a pris la place qu'on lui a donnée et il aurait préféré ne pas être handicapé. Mais bon, j'avais besoin d'extérioriser cette colère, cette... Et puis, je me suis réconciliée aussi avec mon petit frère, en ayant des rapports plus distanciés. Moi, je suis plus fusionnelle avec lui comme je l'ai été. Je continue à être très proche de lui. Mais voilà, je me suis détachée quand même de lui, une distance dont j'avais besoin de prendre.
Oui, c'était nécessaire.
Oui.
Vous étiez seul, vous étiez deux enfants en fait, ou il y avait d'autres frères
et sœurs? On était trois, j'avais un frère aîné, je suis en fait une fille entre deux garçons.
D'accord.
Donc mon frère aîné qui avait 3 ans de plus, enfin qui a toujours 3 ans de plus que moi.
Et comment a-t-il vécu cela lui en fait?
Vous avez... Alors lui, je crois qu'il l'a vécu différemment. Alors on en a très très peu parlé, une fois, une occasion où on s'est un peu pardonné nos chamailleries de gamins, d'enfants, et on a eu un rapport plus adulte. Lui, il n'a pas vécu comme moi, mais on en a très très peu parlé, mais je sais qu'il n'a pas vécu. Puis il a plus été frappé par la réaction de mon père qui était complètement effondré. Il a vécu différemment, mais je ne peux pas parler à sa place parce qu'on en a très peu parlé. Mais bon, il lui a pas pris sa place comme moi, il m'a pris ma place, parce que moi, j'étais vraiment à un moment, à l'âge de 15 ans aussi, j'avais pris conscience quand même que j'avais pas de place dans cette famille. Quand j'étais plus petite, il fallait que je cède à mon grand frère qui était plus grand, pour certaines choses, et notamment les programmes télé. Il était plus grand, c'était pour l'école, donc c'était lui qui... Et puis après, en grandissant, quand moi j'ai eu 14-15 ans, je me suis aperçue que c'était à moi de céder devant mon petit frère qui voulait regarder ses dessins animés, qui voulait... tu peux comprendre, t'es plus grande, laisse-le. Et c'est là que je me souviens une fois m'être énervée et ne pas avoir voulu céder devant mon petit frère que j'ai poussé à bout. Et c'est vrai que quand on les pousse à bout, ils perdent leurs moyens et il m'a jeté un fauteuil à la figure. Et donc là, j'ai arrêté, je suis partie. Mais là, quand même, j'étais folle de rage, j'en pleurais de rage en me disant mais jamais j'aurais eu mon mot à dire dans cette famille. Il fallait que je cède devant mon grand frère et puis maintenant, il faut que je cède devant mon petit frère. Enfin, jamais, jamais. Et moi, j'ai eu ce sentiment que j'avais pas ma place. Mon frère aîné, je pense qu'il l'a pas vécu de la même façon. Et lui, il avait une pression de la part de ma mère, de réussite, et le fait d'avoir un petit frère, ça lui a permis de régresser et de moins subir cette pression. Et quand mon frère est petit, mon petit frère aîné, il avait 9 ans, donc il s'est retrouvé à l'âge de 12-13 ans à jouer avec un enfant de 2 ans, à faire des... Enfin, donc lui, il y avait un côté qui lui a permis d'échapper à une pression. Enfin, il n'a pas du tout vécu la chose de la même façon que moi, je pense, mais on n'en a jamais parlé.
Vous évoquiez tout à l'heure la réaction effondrée de votre père.
Alors j'ai su...
Qu'entendez-vous par là?
Mon père était... Alors moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un père qui était handicapé physique, mais il avait, enfin, il avait en fait des conséquences d'une tuberculose osseuse de la hanche qu'il avait contractée avant la guerre. Il n'y avait pas de traitement que l'immobilisation. Et après 3 ans d'immobilisation, il est retourné à l'école avec 3 ans de retard par rapport à ses camarades. Il boitait, il avait une grosse déformation et puis il avait une hanche raide. Donc il a beaucoup souffert de s'être fait moquer par ses camarades. Et dès qu'il a pu, il s'est fait opérer pour que la déformation de sa jambe se voit moins. Moi, honnêtement, je n'avais pas l'impression d'avoir eu un père handicapé. Il boitait un peu, mais bon, mais lui, il a beaucoup souffert d'être... des autres, d'être rejeté, d'être moqué. Et paraît-il que je me souviens de la tête qu'il avait quand il est rentré le samedi soir à la maison. C'était ma tante qui nous gardait et qu'il a dit à ma tante, c'est un Mongolien. À l'époque, on parlait de Mongolien. Je me souviens que je n'étais pas capable de distraire mon père, ce qui... que j'adorais et je savais que j'avais, enfin voilà, et qui adorait sa fille chérie. Donc, et là, j'ai bien vu que je pouvais rien faire, pas le distraire. Et puis, c'est tout. Après, de ce soir-là, je me souviens pas, j'ai dû aller m'endormir. Et puis après, notre tante nous a pris en charge et nous a pris en charge. On était en vacances chez elle. Mais par contre, mon frère se souvient que ce soir-là, mais lui, il avait 9 ans, il était plus grand que mon père qui s'était senti déjà. Handicapé, différent. Pour lui, c'était terrible d'avoir un enfant handicapé. Et il paraît que ce soir-là, donc quand le diagnostic a été confirmé, il s'est effondré. Et le premier souvenir, enfin, il l'a dit à une autre personne qui me l'a répété. Je l'ai pas su directement par mon frère aîné, mais lui, son premier souvenir dont il a, enfin, de son enfance, le premier souvenir qu'il en a, c'est mon père allongé sur le ventre sur le canapé, la tête dans les bras et pleurant. Et voilà. Alors moi, j'ai pas vu cette scène. Apparemment, lui, il aurait été plus frappé par cela. Puis après, comment il a vécu ? Il l'a vécu différemment, mais bon, c'est quand même une perturbation, quoi. Un enfant qui met en détresse, oui, nos parents, puis qui est aussi sujet de moquerie à l'extérieur aussi. On a conscience qu'on a un petit frère qui est pas tout à fait comme les autres. Bon, on sait pas trop pourquoi. J'ai entendu parler de trisomie 21. Moi, j'avais 14-15 ans. Avant, on parlait des enfants comme mon petit frère, des enfants comme lui. Mais enfin, bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi. J'avais compris qu'il était différent. Après, on parlait de mongolien, oui. Mmh. On ne parlait pas de trisomie 21.
Sophie, on va faire encore une pause avant de conclure. Oui. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
Oui.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h14, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Sophie, aujourd'hui, en fait, lorsque vous visionnez dimanche soir, ce film, quel est votre sentiment aujourd'hui et quel est votre état aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a avancé en vous aujourd'hui ?
Ça reste un sujet encore douloureux, parce que visionner un film comme celui d'hier provoque encore des moments d'émotion, même l'échange que j'ai eu avec Natacha avant, hors antenne, où à des moments aussi j'étais submergée par l'émotion. J'aimerais être plus apaisée avec cela, donc je me disais qu'en témoignant de mon vécu, comme ça n'a jamais été vraiment reconnu au sein de ma famille, en témoigner sur une radio nationale, je me disais que ça allait certainement me faire du bien et j'essayais de rétablir les choses et un peu de pouvoir l'occasion d'exprimer ce que j'ai jamais pu exprimer. Et puis un témoignage aussi pour tous les parents qui seraient dans le cas d'avoir un enfant handicapé ou malade, de surtout faire attention aux autres enfants, de ne pas... Alors certes, les parents sont accablés par la nouvelle qui leur arrive, mais voilà, n'oubliez pas les autres enfants, en fait, c'est encore un sujet qui reste douloureux. Plus de 40 ans après, c'est quelque chose qui m'arrache encore les larmes, mais je ne suis pas encore apaisée avec ça. Je suis beaucoup plus apaisée avec mon frère, mais c'est moi, c'est encore un sujet que le fait de ne pas pouvoir avoir pu l'exprimer, avoir pu en parler, que ça n'a pas été reconnu au sein de la famille, ça me fait encore énormément souffrir. Enfin, ça me fait venir d'émotions et voilà, c'est en visionnant le film hier soir et que j'ai eu envie de témoigner en me disant ouais. aussi que peut-être que ça me ferait du bien et ça ferait peut-être aussi beaucoup de bien à des gens qui sont dans la même situation que moi, qui n'ont jamais pu s'exprimer sur cela.
Micheline, au 739-21, vous dites qu'elle se retrouve dans votre témoignage, mais qu'à la différence de vous, elle a eu cette chance de pouvoir avoir cette explication avec ses parents, une explication nécessaire, dit-elle, et qui aujourd'hui a redonné à la famille un équilibre qu'il n'avait jamais trouvé en fait. Et que cette discussion est venue tard, nous dit-elle, autour de ses 25 ans, mais qu'elle s'est fait violence d'ailleurs pour avoir cette discussion, parce que je pense que pour vous aussi, ça devait être difficile d'entrevoir, d'avoir cette discussion avec vos parents. Ça doit être difficile. Le point d'équilibre dans ce type de discussion est compliqué à trouver.
Puis on ne se sent pas légitime de se plaindre, alors que effectivement... Ouais. Nous, on a la chance d'être normal. On a un peu honte de se plaindre alors que, il y a pire que soi. Et puis j'ai pris du recul face à la situation et j'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais très tard, à plus de 35 ans. Donc, sur le moment, j'étais pas bien. C'est vrai qu'adolescente ou jeune adulte, j'étais pas bien. Mais je comprenais pas vraiment pourquoi. J'avais toujours ces comportements alimentaires compulsifs, mais j'en avais pas la cause en fait. La cause, je l'ai comprise bien plus tard en fait. Donc, et puis avec ma mère, non, j'en ai jamais discuté. Ça m'aurait peut-être fait du bien, mais ça n'a jamais été. Oui, c'est comme un sujet tabou, ça. Personne n'a jamais évoqué que ça a dû, même dans la famille au sens large, personne n'a pu évoquer un jour que ça n'a peut-être pas été facile de grandir auprès d'un enfant différent, Non, personne, ça n'a... Et moi, ce dont je souffre le plus, c'est que je n'ai jamais pu l'exprimer, que ça n'a jamais été reconnu. C'est pour ça que le témoignage, je me disais, me ferait du bien aussi pour enfin que ce soit quelque chose de reconnu. Alors, pas au sein de la famille, mais bon, et de pouvoir le verbaliser, l'exprimer en dehors cabinet de la psychologue et pouvoir si mon témoignage pouvait aussi faire du bien à d'autres personnes, mais c'est vrai qu'on en parle peu.
On en parle peu, vous avez raison.
Oui, de la souffrance des frères et sœurs, on les oublie un peu dans l'histoire. On pense à l'enfant différent, malade ou handicapé, aux parents, mais les enfants, on en parle très très peu, le mal que ça peut avoir sur la fratrie et les conséquences que ça peut avoir après sur notre vie d'adulte. Enfin, donc, et comme ça n'a jamais été dit, verbalisé, j'ai l'impression que ça n'a jamais été reconnu et qu'après le décès de mes deux parents, ça ne serait jamais reconnu, ce qui m'a plongée dans cette grave dépression. Et j'ai enfin compris que j'attendais une reconnaissance qui ne viendrait jamais, et j'aimerais être plus apaisée avec ça. Donc le témoignage d'aujourd'hui, c'est à la fois pour les autres, mais surtout aussi pour moi, en espérant être un peu plus apaisée et que ce soit moins douloureux et moins sensible. Et de pouvoir... Sinon, les rapports avec mon frère en lui-même se sont apaisés. J'ai pris une distance nécessaire. Ça va beaucoup mieux. C'est juste moi. J'avais besoin d'une certaine reconnaissance, d'une souffrance...
Merci. Merci mille fois, Sophie, pour la sincérité de ce témoignage qui, j'en suis sûr, donnera une explication donnera du sens sur certains sentiments qu'ont ressenti ou que ressentent certaines personnes qui sont passées par le même schéma que vous. Et j'espère aussi que cela vous aura apaisé et soulagé d'en parler comme ça devant une assistante, une assistance importante comme sur une radio nationale comme ce soir vous l'avez fait. Mille merci en tout cas, Sophie.
Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie.
Merci beaucoup et merci à votre équipe, Florian et Natacha.
Je vous en prie, ce sera fait. Passez une bonne soirée. Merci Sophie.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir Olivier.